Vous écoutez RTL.
A tout à l'heure, 21h, pour le prochain point sur l'actualité, Julien.
Et pour le match des Bleus.
Et bien sûr, match des Bleus à 21h, que vous suivrez avec Thomas et Sidonie, et dans RTL Grand Soir, avec Agnès Bonfillon et Christophe Paco.
Évidemment, ce sera le fil rouge de notre seconde heure de curiosité. En attendant, j'imagine, Marco, que vous ne connaissez pas Antoine Crosa.
Non.
Eh bien, c'est normal, il a sombré dans l'oubli. Pourtant, il était trois fois plus riche que Bill Gates, habitait au Ritz, logeait sa fille à l'Élysée, possédait la Louisiane, achetait des châteaux par dizaines.
J'aurais dû connaître ce monsieur, c'est dommage.
On aurait dû même être amis avec lui.
Bah oui, il aurait pu nous aider, qui sait, pour nos fins de mois.
Moi, pour un emploi fictif, un truc comme ça, j'aurais été d'accord.
Nous rions jaunes, vous entendez?
Bon, oui, j'entends. Voilà. Bon, je vous retrouve dimanche sur RTL à 19h30, donc avec les grandes signatures pour vous faire vivre le dénouement de cette primaire de la gauche.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Allez. À dimanche.
Ciao Marco.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Nous sommes là, bien assis, face à notre bonnette rouge. Ça s'appelle comme ça, cette petite doudoune qui est autour de notre micro.
Je croyais que c'était moi la bonnette.
Non.
Vous êtes la bonnec et moi la bonnette, c'est
non,
ça?
Non, mais non, Thomas. Vous allez bien?
Ça va, en pleine
ouais.
forme. Tout va
allez,
bien.
Allez, au programme.
Bienvenue à vous. On est très heureux de vous retrouver. De quoi on parle ce soir, alors?
Une expédition en Antarctique à bord d'un brise-glace russe, l'académique Fedorov. Notre invité est écrivain voyageur. Il a eu ce privilège rare de partager le quotidien des femmes et des hommes qui quittent tout pour affronter les 40e rugissants et des températures absolument glaciaires. Tout ça pour l'amour d'un continent blanc qui n'appartient à personne, ou presque. Hein.
Voilà, vous avez l'une des bases de l'émission, l'aventure. Il y en a une autre, ce sont les destins extraordinaires que notre histoire recèle. Par exemple, cette histoire incroyable d'un milliardaire français, un homme parti de Toulouse pour conquérir la cour du roi Soleil, Louis XIV, financer ses guerres, devenir tellement riche qu'il possédait une grande partie de l'Amérique. Ce destin, on va vous le faire découvrir, il s'appelait Monsieur Antoine Crosa.
Et tout de suite, des auteurs fantômes qui vendent des millions de livres.
La curiosité est un vilain défaut.
Pierre Bordage est vraiment un auteur de science-fiction prolixe.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Imaginez qu'il compte près de 60 romans en 20 ans de carrière.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai découvert la science-fiction par le biais d'un cours de littérature comparée.
Si votre défaut, c'est la curiosité.
Et là, les chroniques martiennes de Bradbury, ça m'a ouvert des horizons. J'ai été pris d'un vertige immédiat. C'est génial, quoi.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Pierre Bordage, Françoise Bourdin, Christian Signol, Aurélie Valogne, Agnès Ledigue, Virginie Grimaldi, vous connaissez leurs noms, vous adorez leurs livres, mais vous n'avez peut-être jamais vu leurs bobines à la télévision. Pourquoi? Et qui sont ces stars de l'édition? Une enquête passionnante de nos confrères du Parisien Magazine aujourd'hui en France, c'est en partenariat avec RTL et on a le plaisir de retrouver notre sociétaire, Lucas Bretonnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va Lucas?
Ça va et vous?
Ça va super. Ça va bien. Dans votre article, vous parlez, et ça c'est fascinant, d'un monde parallèle à ce point.
Bah c'est presque ça. En fait, ça commence déjà dès la sortie du livre. En fait, ces livres-là ne sortent pas, en tout cas pour la majorité d'entre eux, ils ne sortent pas au moment des rentrées littéraires. Vous savez, on en parle beaucoup, la rentrée littéraire de d'août-septembre, le battage médiatique, 600 romans qui sortent à ce moment-là. Il y a une autre rentrée littéraire en janvier, en ce moment. Et puis, il y a beaucoup de livres qui sortent entre les deux, c'est-à-dire à l'automne et au printemps, en fait. Et donc, ils sont un petit peu en marge de la rentrée médiatique et donc des projecteurs des médias.
Pourquoi ils ne sortent pas pendant la rentrée littéraire? Parce qu'on pense qu'on ne les attend pas.
Alors, il y a déjà la rentrée littéraire, c'est tellement de romans qu'effectivement, il y a peut-être ils ont peur d'être noyés. En plus de ça, c'est aussi des romans qui ne sont pas forcément toujours sélectionnés dans les prix littéraires, ce qui explique un petit peu aussi leur sous-médiatisation, si on peut dire ça. Et puis ensuite, c'est aussi parfois, on y reviendra peut-être après, des romans qui marchent très très bien en livre de poche, c'est-à-dire lorsqu'ils sont édités une deuxième fois dans un plus petit format. Et là, cette édition-là, elle arrive dans un second temps qui est encore moins médiatique que le premier. Donc, ça fait beaucoup. Et c'est ça qui me permettait de dire que c'est un petit peu un circuit parallèle.
Ils sont un peu snobés par la critique, on peut dire ça quand même.
On peut le dire. Alors après, il y a des réalités très différentes, parce qu'il y a des genres très différents dont on va parler et que j'expose dans le magazine, mais effectivement, il peut y avoir une forme de snobisme ou de mépris d'une partie, en tout cas, des critiques parisiennes.
Alors, qui sont les plus fameux représentants de cette catégorie, on pourrait dire les adulés du public?
Alors, dans mon enquête, je les ai classés en catégories. Alors, elles sont un petit peu arbitraires, mais elles ont un sens. Et effectivement, la première, c'est les grands publics. Mmh. Alors, la plus emblématique, selon moi, c'est Françoise Bourdin.
Ouais.
Autour de moi, certains la connaissaient, mais beaucoup la connaissaient pas. Pourtant, elle est sixième au classement des meilleures ventes de l'année 2016. Classement que l'Institut GFK publie avec le Figaro il y a une semaine. Donc, elle est sixième, c'est-à-dire que ça représente 679 9000 livres écoulés, toutes éditions confondues, en un an. Les seuls qui font mieux qu'elle, ce sont les Musso, Marc Lévy, Michel Bussy, qui eux sont vraiment les plus gros vendeurs. Quoi. Mmh.
Et elle raconte quoi comme histoire, Françoise Bourdin ? Pourquoi elle passionne tant ses lecteurs ?
Moi, personnellement, je ne suis pas un expert de sa littérature, mais globalement, ce sont souvent des histoires familiales, des fresques, j'ai envie de dire, qui...
Oui, des sagas dans lesquelles on aime vraiment se plonger. Quoi.
Exactement, et qui ont un... Et justement, qui sont souvent, et ça a été le cas de ses premiers romans, adaptés à la télé ou au cinéma, parce que ça fait justement des sagas, des feuilletons et des grandes fresques assez accessibles, mais plutôt de qualité, et en tout cas qui plaisent à beaucoup.
Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, que vous citez dans votre article du Parisien Magazine en partenariat avec RTL. C'est un auteur qui magnifie la nature, qui magnifie nos régions. C'est Christian Signol. Mmh. Alors, il est dans quelle catégorie, lui ?
Alors, lui, je l'ai... On dit régionaliste, on dit écrivain du terroir. Ouais. Il le revendique complètement. Et lui, effectivement, il... Alors, ce qui est très connu chez lui, c'était La Rivière Espérance. Mais ça, bon, déjà, au moins quelques décennies. Mais qui a été, lui aussi, ce roman-là, adapté au... Je crois que c'était à la télévision. C'était un feuilleton. Ouais. Ah, ça racontait, il me semble, hein, mais là, si vous connaissez mieux que moi, vous me corrigez, l'histoire des bateliers le long d'une rivière à la fin du 19e siècle. Donc, c'est quelque chose, c'est un petit peu la France rurale, il y a un peu de nostalgie.
Il y a toujours un peu de ça, il y a toujours la nature omniprésente. Mmh.
Il y a de l'histoire, donc.
La rivière, justement, très personnifiée, ouais, d'après ce que j'ai compris.
Et la Seconde Guerre mondiale, qui est assez présente aussi dans
Et lui, il a une explication intéressante, d'ailleurs, pour expliquer le fait qu'il n'est pas très médiatisé. Lui dit qu'un écrivain est censé éclairer le réel. Il dit, depuis 50 ou 60 ans, le réel, il est davantage urbain en France. Évidemment, il y a eu l'exode rural, les gens vivent de plus en plus dans des villes et de moins en moins à la campagne. Et donc lui, il dit, ma littérature à moi, elle s'occupe davantage de la campagne, elle est rurale, et donc elle est en décalage avec une partie des journalistes qui, eux, vivent à Paris et s'intéressent davantage à ce qui se passe dans les grandes villes. Et c'est pas inintéressant.
Mais il vend beaucoup de livres, pardon, ouais, Sidonie.
Et beaucoup de poches, il me semble.
Il vend, alors c'est ça, c'est un peu la star du livre de poche, c'est 3 millions au total depuis le début de son œuvre. Et en moyenne, alors je crois que c'est plus de 100 000, mais je crois que c'est plus de 100 000 exemplaires à chacun de ses ouvrages. C'est un très gros vendeur, 300 000 par an.
Dans votre article du Parisien Magazine Aujourd'hui en France, vous expliquez, Lucas Bretonnier, que la fortune de ces auteurs, en fait, elle se fait souvent avec le poche. Le poche, c'est la deuxième édition en petit format.
C'est ça. C'est un très bon baromètre du succès populaire, parce que c'est un... Donc c'est petit, c'est moins cher. Vous pouvez l'acheter partout, évidemment. On l'a tous fait.
Dans les gares, les
supermarchés. Donc il permet de prendre la température vraiment de ce qu'est un succès populaire ou pas.
Mais ça veut dire qu'un livre peut raisonnablement marché dans son édition originale et cartonné en poche.
Oui, exactement. C'est souvent le cas de ce genre de livres qui peuvent faire, par exemple, 20 000 ventes en première édition, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il faut rappeler aux auditeurs que c'est déjà un petit succès. Mais ensuite, vous multipliez par 10 ou 15 dans l'édition de poche.
Vous citez Karen Vigers, je crois que son livre, c'est La mémoire des embruns.
C'est ça. Très bon exemple. Elle passe de 18 000 à 285 000, il me semble.
C'est énorme.
Voilà. Et donc ce coefficient-là, qui est très facile à calculer, en fait, est vraiment un indice du caractère populaire, vraiment au sens propre du terme, de ces auteurs. Et c'est la directrice générale du livre de poche, Véronique Cardi, je crois, de tête, qui me l'explique.
Dans un instant, on posera la question directement à l'une des nouvelles venues dans ce monde des auteurs à succès qui ne passent pas à la télé. Elle s'appelle Virginie Grimaldi. Elle a vendu 150 000 exemplaires de son premier roman. Elle nous dira comment elle a conquis son public. A tout de suite, les curieux sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce sont des auteurs à succès qui n'ont pas forcément les faveurs de la télé, de la radio ou de la presse traditionnelle. C'est le Parisien Magazine, aujourd'hui en France, qui nous fait découvrir ce monde parallèle avec le journaliste Lucas Bretonnier, qui est notre invité dans la curiosité sur RTL. Parmi ces nouvelles venues, ces auteurs qui cartonnent sans passer par la case télé, il y a Aurélie Valogne. Qui est-elle ?
Alors Aurélie Valogne, c'est une jeune trentenaire, une jeune mère de famille, passionnée de littérature, et qui, comme beaucoup, n'a pas osé ou n'a pas voulu frapper à la porte des maisons d'édition. Donc elle s'est auto-éditée. Je crois qu'elle est passée par Amazon. Amazon, vous savez, le libraire, le géant d'Internet, qui a senti le filon et qui propose aux internautes aspirants écrivains de les publier. Et en fait, ça permet de passer outre le filtre
de la pile de manuscrits chez l'éditeur.
Ce qui est très intéressant, parce que c'est-à-dire qu'il passe à côté du filtre médiatique, et en plus, dans le cas d'Aurélie Valogne, à côté du filtre des éditeurs.
Oui, et puis il touche directement le public,
voilà, de manière un peu horizontale, si on peut dire.
Alors moi, je ne la connais pas, qu'est-ce qu'elle a publié, Aurélie Valogne ?
Alors son best-seller, c'est « Mémé dans les orties ».
Oui.
Je crois l'histoire d'une rencontre entre une grand-mère et un autre personnage. Oui. J'ai pas eu le temps de le lire, mais c'est quelque chose d'assez rigolo, vraiment de très drôle, et qui a tout de suite séduit, tout de suite marché.
Et encore une fois, l'éditeur, elle en vend combien ?
Alors, elle en a vendu plusieurs dizaines de mille, je crois que c'est plus de 30 000 en auto-édition. Puis Michel Lafon l'a publié 20 000 exemplaires. Mmh. Et ensuite, livre de poche, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, 300 000.
Et c'est le bouche à oreille aussi qui fait le succès de ces auteurs. Un bouche à oreille qui fonctionne merveilleusement bien aussi pour Virginie Grimaldi. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Vous êtes l'auteur du premier jour du reste de ma vie, un roman publié au livre de poche. Il s'est vendu à 150 000 exemplaires. Comment tout a commencé pour vous ? C'est un éditeur qui est venu à vous ? C'est vous qui avez envoyé un manuscrit par la poste ?
Pas par la poste, justement, parce que je pensais que c'était inaccessible et j'avais pas envie de dépenser de l'argent et du temps à faire imprimer, relier et envoyer les manuscrits. Donc j'ai contacté le seul éditeur qui acceptait les manuscrits par mail. Et deux jours plus tard, il m'appelait pour me proposer un contrat.
Donc cet éditeur, c'est City, ça a marché tout de suite ?
Oui, ça a marché tout de suite. C'est vrai que j'étais le premier jour, le jour de la sortie, j'étais devant mon écran à regarder les réseaux sociaux, et tout de suite il y a eu un bouche à oreille qui s'est mis en place et des critiques très positives, donc ça a pris. Ouais.
Bon, 150 000 exemplaires en poche pour un premier roman, forcément vous avez été interviewé partout, à la radio, à la télévision.
Vous avez fait 20 heures au moins.
Bien sûr, partout. Ouais. Non, je n'ai pas bénéficié de beaucoup de presse. Finalement, c'est sur les réseaux sociaux, sur les blogs, que ça a le plus fonctionné. Et puis, c'est un vrai média maintenant, donc ça a été suffisant. Mais je n'ai pas eu tellement de presse et pas du tout de télé et quasiment pas de radio.
Et ça vous a étonné, ça vous a blessé, ça vous a ennuyé, ça, Virginie Grimaldi, d'avoir du succès et de pas être relayée par les médias ?
Mais pas du tout, parce que je ne m'attendais à rien. Et donc pour moi, c'est déjà énorme d'avoir ce succès-là et d'avoir ce bouche à oreille et cette visibilité sur Internet. Et puis non, après si ça vient, tant mieux, mais j'attends rien de ce côté-là.
Votre nouveau roman, Tu comprendras quand tu seras grande, qui est paru chez Fayard au printemps dernier, je crois qu'il s'est déjà très bien vendu. Vous êtes à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, c'est ça ?
Oui, aux dernières nouvelles, on était à 30 000.
Bon, bah c'est joli, c'est un beau succès.
Ouais.
Vous avez quoi ? Est-ce que vous pouvez dire que vous avez une sorte de communauté qui vous suit et qui attend vos livres ?
Ouais, je suis partie avec un avantage, c'est que je tiens un blog depuis 2009, donc j'avais des lecteurs fidèles depuis le début, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont encouragée à me lancer sur plus long format et à tenter ma chance. Donc ça a été mes premiers lecteurs. Et ensuite, je suis assez active sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages. Maintenant, les premiers lecteurs, finalement, sont minoritaires. C'est tous les nouveaux lecteurs qui viennent, qui envoient des messages. Je réponds à tout le monde. Des fois, je mets du temps, mais je tiens à y répondre. Et donc, c'est une communauté. C'est vrai qu'à chaque fois que je publie quelque chose, il y a beaucoup de commentaires. Et c'est une communauté assez fidèle. Et c'est très étonnant et c'est super, en fait.
Virginie Grimaldi, on a eu un coup de cœur toutes les deux, il faut le dire. On s'est connus au salon du livre de Brive. Moi, j'étais juste à côté de vous avec mon livre « Maman pour le meilleur et pour le reste ». J'avais des personnes qui venaient pour signer. Hein. Puis je me tournais vers vous. Puis il y avait juste des centaines de gens qui attendaient avec tous vos romans serrés dans les bras. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable ce succès. Pourquoi vous plaisez tant à votre public ? Quelles histoires vous leur racontez ?
En fait, je raconte des histoires dans lesquelles ils peuvent s'identifier. Je crois que c'est, en tout cas, c'est ce qui ressort souvent de ce qu'ils me disent. Ils s'identifient, ils se retrouvent dans les histoires que je raconte. C'est des histoires de vie, des chemins de vie un peu cabossés, comme on peut tous avoir, avec des héros qui ont des défauts, qui ne sont pas parfaits. Et puis, j'essaie, en tout cas, de faire rire, de mettre beaucoup d'humour et de légèreté pour que ça distrait et qu'on passe un bon moment. J'ai envie de faire rêver, de faire rire, d'émouvoir, de provoquer des émotions. Et visiblement, ça passe d'après ce qu'ils me disent. Donc,
Eh bien oui, ça marche. Et d'ailleurs, j'ai vu sur votre blog Femme Suite Femme, vous annonciez que vous aviez remis, ça y est, votre manuscrit à votre éditeur, Fayard. Donc les fans sont trop contents. Bientôt, au printemps, je crois qu'il va y avoir un nouveau Virginie Grimaldi.
Le troisième au mois de mai, oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Virginie.
Merci à vous.
Bon vent.
Merci beaucoup. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Lucas Bretonnier, c'est un cas d'école. Internet qui permet de se créer un premier réseau de fans, qui vous pousse à publier votre premier roman, puis ensuite une maison d'édition récupère le succès, parce que c'est aussi le métier d'un éditeur de sentir ouais. où est le succès. Ouais. Internet, ça change vraiment la donne.
Ça a tout changé, c'est-à-dire que même dans les différents genres, que ce soit les genres, science-fiction, les polars, la littérature jeunesse ou la littérature grand public, Internet, évidemment, en tant que média, permet de contourner les médias qu'on dit traditionnels, c'est-à-dire les journaux parisiens, la radio et la télévision. Et donc, de manière
différente... Avec des blogueurs qui jouent un rôle, qui donnent envie d'aller acheter tel ou tel...
C'est ça, les blogueurs sont très, très, très importants, c'est les meilleurs amis des éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs se disent, les blogueurs, ils n'ont pas de rédacteur en chef, ils n'ont pas de compte à rendre, ils sont complètement libres, ils sont souvent passionnés, ils sont bénévoles.
Ils ont tous des goûts très différents.
Et ils ont toute la place qu'ils veulent en plus, puisqu'évidemment, c'est Internet. Et ils sont pas limités.
Ils ne sont pas tous à Paris.
Ils ne sont pas tous à Paris. Donc vraiment, c'est un maillage très, très, très grand. Et c'est pour les éditeurs, c'est évidemment très, très important. Et en plus de ça, ils jouissent d'une proximité avec les lecteurs et d'une présomption de sincérité. C'est-à-dire que je pense que pour le lecteur, le blogueur, il n'est pas acheté, il n'est pas payé, il est libre.
Et il a lu.
Il l'a lu et ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il pense. Donc je pense que ça, c'est très important.
Alors vous nous le disiez, Lucas, ça touche plein de genres différents de littérature. On va continuer d'explorer quelques-uns des succès de livres, tiens, parfois sulfureux ou alors carrément réac. Restez avec nous sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je m'appelle Aurélie Valogne. Mon premier roman s'appelle Mémé dans les orties.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Quand j'ai terminé mon roman, j'avais tout de suite envie d'un retour des lecteurs.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Le livre numérique m'a vraiment permis tout de suite d'avoir un retour du public, très rapide.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Aurélie Valogne, comme Françoise Bourdin ou Agnès Le Dic, ces auteurs n'ont pas les honneurs, pas souvent, de la presse nationale, de la télé, des radios. En revanche, elles cartonnent, elles marchent, elles sont lues par milliers, par centaines de milliers. C'est le thème de l'article de notre invité Lucas Bretonnier, à lire demain dans le Parisien Magazine, aujourd'hui en France. C'est en partenariat avec RTL. Et parmi ces gros vendeurs de livres, qui ne sont pas souvent, voire jamais invités dans les médias, il y a des auteurs... Là, on a parlé d'une littérature, on va dire, grand public. Là, on va entrer dans une littérature un peu différente qu'on peut qualifier de sulfureuse, réac. Par exemple, Laurent Oberton, comment il s'est fait remarquer il y a 4 ans ?
Alors Laurent Oberton, c'est un journaliste au départ qui a écrit un livre qui s'appelle La France Orange Mécanique, alors un titre un peu accrocheur, et donc c'était une enquête sur les faits divers et les vrais chiffres, disait-il, de la délinquance. Alors donc c'était une enquête assez fouillée, mais un petit peu angoissante et très axée sur la parole policière. Et donc c'est quelqu'un qui s'est fait une spécialité, comme la maison d'édition à laquelle il appartient, qui le publie, qui s'appelle Ring, qui publie notamment Frédéric Lantieri, qui présente Faites entrer l'accusé. C'est-à-dire qu'ils se sont fait une spécialité de publier des ouvrages entre
choc,
autres.
Choc, c'est ça ?
Choc, très axé sur les enquêtes policières, le milieu de la justice et des bandits. Bon. Après, Laurent Oberton, angle un petit peu ses récits de manière, j'allais dire, un peu sombre et en tout cas avec un peu de catastrophisme. Et résultat, il est un petit peu rattrapé par, on dit la fachosphère, c'est-à-dire un lectorat un petit peu d'extrême droite, comme même lui dirait qu'il...
Récupéré, vous voulez dire ?
Dis récupéré parce que lui se défend, d'après ce que j'ai entendu, d'être d'extrême droite, et de toute façon, c'est pas forcément le sujet, mais effectivement, cette maison d'édition et ces ouvrages-là, sur Internet, sont appréciés par une nébuleuse de gens anti-système, vous voyez, donc...
Et cette nébuleuse anti-système, il y a souvent des complotistes, des conspirationnistes. Alors pour eux, c'est presque un atout qu'un auteur passe pas à la télé.
Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, exactement. C'est-à-dire que plus ces auteurs vont à la télévision dans des médias qu'on va dire vendus ou en tout cas très 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 installés, au contraire, ça va jeter pour beaucoup de ces lecteurs-là une espèce de doute sur la sincérité, la véracité, l'authenticité de ces auteurs-là. Et donc, et eux aussi, on parlait de communauté tout à l'heure, eux aussi, ils ont une communauté très forte, très active, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et également dans les salles. Vous parliez de Virginie Grimaldi, qui signait beaucoup, Marceau, l'auteur de BD, un peu choc, lui, il a beaucoup, beaucoup de fans à qui il dédicace ses BD dans les salons.
Et donc, il y a un rapport très... one-to-one, très individuel de l'auteur avec ses lecteurs. Il y a la littérature de genre aussi dont vous parlez, Lucas Bretonnier, dans votre article. La littérature de genre, c'est la science-fiction, le polar, l'héroïque fantasy. Et parmi ces genres, il y a un auteur qui se démarque, il s'appelle Pierre Bordage.
Pierre Bordage, c'est de la science-fiction. Et c'est 800... Alors lui, c'est 20 ans de carrière, je crois plus d'une cinquantaine d'ouvrages, et 800 000 exemplaires au total vendus, donc c'est beaucoup. Il a des ouvrages qui se vendent à 100 000 exemplaires. Et pareil, lui, il est un petit peu connu dans le milieu, mais c'est toujours la même chose, assez peu dans les médias. Je pense qu'il y a un léger snobisme des critiques littéraires parisiennes. La littérature française, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc la science-fiction, on la juge peut-être comme un sous-genre, on va dire, ou de la pop culture. Alors aujourd'hui, ça revient un petit peu à la mode et ça gagne quelques lettres de noblesse, mais ça reste quand même pour beaucoup un petit peu un sous-genre. Mais alors, eux, ça les dérange pas parce que, pareil, encore une fois, ils ont une communauté très forte de fans qui les suivent. Encore une fois, avec Internet, de manière de plus en plus facile
et quotidienne.
Et quotidienne.
Donc en fait, il y a des générations différentes. Hein. C'est vraiment des cas particuliers dans ce que vous nous décrivez. Autre exemple, qui publie lui aussi avec énormément de succès, il s'appelle Victor Dixen. C'est quel genre, quel style de littérature ?
Alors ça, on le dit, le terme est anglais, ils appellent ça la littérature, le genre young adult, donc jeune adulte en français. Mm-hmm. Ça peut être aussi souvent de la science-fiction ou de l'anticipation, ou de l'héroïque fantasy. Un éditeur me disait, c'est un peu les Jules Verne d'aujourd'hui, donc c'est des romans d'aventure qui font rêver, qui peuvent se passer effectivement, j'allais dire 20 000 lieues sous les mers ou ailleurs.
Et donc, ça marche très bien ça ?
Ça marche très bien, et le public est très fidèle. Et là, pour d'autres raisons, ils passent pas dans les médias, c'est parce que les lecteurs, les acheteurs étant assez jeunes, et malheureusement achetant moins, voire pas du tout, les journaux papier, eux, ils s'intéressent directement à ce qui se passe sur Internet, et donc les éditeurs les ciblent de cette manière-là.
Est-ce que ça veut dire que les éditeurs aussi font la promotion de leurs auteurs sur Internet ? Ils investissent vraiment le secteur ?
Ouais, c'est un travail, l'éditeur en question, qui s'appelle Glenn Tevianek, je crois, j'espère que je n'écorche pas son nom, lui, il passe énormément de temps, au passé et passe encore, sur les réseaux sociaux, à s'adresser directement à ces jeunes lecteurs passionnés qui sont à l'affût de la nouveauté, voilà, et qui ne lisent pas ni Le Parisien ni Le Monde, et qui malheureusement n'écoutent peut-être pas autant RTL que leurs parents. Et donc eux, ce qui compte, c'est ça, c'est là, les réseaux sociaux.
Oui, effectivement, il y a même pas mal d'histoires, de plus en plus d'histoires de romans qui sont nées grâce à une blogueuse ou un blogueur qui l'a repéré, qui en a parlé à sa communauté, qui elle-même en a parlé, etc. Jusqu'au moment
c'est
où...
C'est viral, en fait, en quelque sorte.
C'est viral, et au moment où ils se sont dit, il faut absolument publier, quoi. Et ça, c'est des belles histoires. Il y a des... Nous, on voit que le travail des maisons d'édition, c'est aussi d'annoncer le passage d'un auteur dans la curiosité sur RTL. Donc, cet espace numérique, il est évidemment... colonisé, c'est très bien par les maisons d'édition. Les auteurs youtubeurs, ils sont nombreux. Ceux qui ont d'abord écrit pour quelques fans sur ou qui tenaient qui avaient une chaîne YouTube et qui en ont fait un livre, ça existe beaucoup.
Ils sont pas très nombreux, mais en revanche, quand ils publient quelque chose, c'est le carton, mais immédiat. Ah ouais. Et alors là, c'est encore une fois Internet. À partir du moment où ils ont 2, 3, 4 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, le terme de chaîne n'est pas anodin, hein, c'est un média à part entière. Vous avez 3 ou 4 millions de personnes qui vous suivent, c'est plus que l'audience de mon propre magazine, Le Parisien Magazine. Donc eux, ils sortent un roman, roman, le mot est peut-être un peu fort d'ailleurs, il y a un manga signé de Kevin Tran, qui est plutôt de bonne qualité. Lui, il sort son manga et tout de suite, c'est 280 000 ventes. C'est-à-dire, il suffit qu'un de ses abonnés sur 10 achète son livre et ça fait 300 000. Quoi.
Et il y a une star de YouTube, c'est Enjoy Phoenix qui raconte ses secrets de beauté, ses secrets de jeune fille. Pareil, elle sort son autobiographie. Et
à 22 ans. Alors 22 après, ans. On peut en rire, on peut en sourire.
Peut-être qu'elle a vécu beaucoup de choses. Hein.
Mais en attendant, à partir du moment où il y a 3 millions de personnes...
Le comte de Saint-Germain, elle a 17 000 ans en fait. Elle a vécu 1000
vies. Mais écrivez votre autobiographie, Thomas.
Mais moi, j'ai rien à raconter. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Lucas Bretonnier. Votre article est à lire, dans Le Parisien Magazine, aujourd'hui en France, est en partenariat avec RTL et c'est à découvrir demain dans vos kiosques, bien sûr, vous avez l'habitude.
Vous écoutez RTL.